Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Salut tout le monde, c'est un épisode très spécial aujourd'hui. C'était pas pantoute sur ma bingo card 2025. J'ai eu l'honneur et le privilège de m'entretenir avec David Strachmeister, qui est l'interprète de Samantha, dans Samantha Oops. J'en reviens toujours pas qu'il ait accepté mon invitation. Moi, j'ai envoyé ça sans aucune attente. Je me suis dit, oh, je vois le DM sur Instagram, s'il me répond, tant mieux. Et j'ai eu une réponse positive et je me trouve tellement chanceuse. C'est la première fois même qu'il faisait une entrevue podcast pour parler de Samantha. Puis c'était vraiment, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir connaître les dessous de la série, en savoir plus sur son processus de création, d'où l'idée est née, comment il a rencontré finalement l'interprète qui a joué Chantal. Puis même, on a parlé de l'importance que le phénomène Samantha a eu au Québec, à quel point on a été les premiers à ouvrir les bras à ce projet-là, à quel point on a embarqué. Donc, j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode-là. Et juste avant de vous lancer dans l'épisode, ben c'est l'heure de vous faire des recommandations. Puis partez pas, parce qu'un projet comme ça, ben c'est grâce à des partenaires, justement. Puis aujourd'hui, je suis allée super concept, vous allez voir. D'abord, j'ai une super bonne recommandation de film à voir sur TVA+. Comme on parle d'un duo légendaire, Samantha et Chantal, fallait que je trouve un film où est-ce que il y a un duo légendaire. Et c'est le film Méchant menteur avec Jennifer Aniston et Adam Sandler. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? En fait, c'est l'histoire de Danny, qui a découvert qu'il obtient beaucoup de succès avec les femmes quand il leur raconte un mensonge. Et le mensonge, c'est qu'il est marié et qu'il se fait maltraiter par sa femme. Donc là, les filles y ont pitié de lui et ça lui apporte beaucoup de succès. Tout ça va bien jusqu'à ce qu'il rencontre la fille qui est, selon lui, la bonne personne pour lui. Et là, cette personne-là, ben, elle pense qu'il est marié. Donc, lui, il invente qu'il est en plein divorce. Et là, elle, ben, elle veut rencontrer sa femme en question. Et c'est là que Jennifer Aniston entre en jeu dans l'histoire. Elle va se faire passer pour sa femme. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce qui arrive. Allez voir vite ce film-là parce qu'il reste pas là longtemps. Il est là jusqu'au 31 juillet sur TVA+. Donc, faut faire vite. Et ça va être dans ma section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Aussi, évidemment, un gros merci à Toujours Mike's qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Puis, vu qu'on parlait d'un duo, ben, il fallait que je vous présente des plats aussi qui sont des duos légendaires et c'est les duettos. Ça, c'est les plats pour les personnes comme moi qui sont jamais capables de choisir puis qui veulent goûter à tout sur un menu. Les duettos, moi, ça vient régler tous mes problèmes. C'est des plats qui peuvent venir accompagnés de salade César, de frites assaisonnées. Et ça, là, by the way, gang, je suis allée en manger l'autre fois chez Mike's. C'est les frites les plus croustillantes que j'ai mangées de toute ma vie. C'était au Mike's à Brossard. Bravo pour les frites. Le duettos, ça peut venir aussi avec de la poutine. Et dans certains cas, il y a des plats qui peuvent être accompagnés de pâtes. Je pense entre autres au duetto pizza qui peut venir accompagné d'un spaghetti bolognaise. Pizza Getty style, moi, ça me parle beaucoup. Si ça vous parle puis que vous avez envie de commander chez Toujours Max, regardez la section duettos puis surtout, utilisez mon nouveau code promo qui vous donne 15% de rabais sur toutes vos commandes pour emporter livraison dès que vous commandez pour 25$ et plus. Et le code, il a changé. Maintenant, c'est Québec Nostalgie 15 Québec écrit QC. Profitez-en. Petit duettos. Ma dernière recommandation aujourd'hui, c'est en collaboration avec Raisin, qui importe des super bons produits. Puis là, vu qu'on parlait de Samantha et Chantal, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous recommander un produit français. Et c'est pour les amateurs de vin rouge. Ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est le Chinon Expression de Pascal et Alain Lorieux. C'est un Cabernet Franc qui nous vient de la Vallée de la Loire. C'est un super beau produit si vous voulez vous familiariser avec ce cépage-là. Il est fruité, il est généreux, il est super bien balancé. C'est vraiment, eux autres, ils disent que c'est un vin sans prétention, mais avec du style. Puis, si vous cherchez avec quoi prendre ce vin-là, l'accord parfait, ça serait si jamais vous vous faites une soirée barbecue ou même très nichée. Si vous vous faites un carpaccio de bœuf, ce serait délicieux de prendre ce vin-là. Si vous connaissez déjà, prenez note que l'étiquette s'est refait une beauté, mais il y a quelque chose qui ne change pas par contre, puis c'est la fameuse petite pastille raisin. Dès que vous voyez un produit avec la petite pastille orange, vous le savez que c'est un gage de qualité. Là. Vous pouvez vraiment acheter le produit à l'aveugle, mais moi, je vous recommande vraiment d'essayer celui-là, le Chinon Expression, surtout en accord avec Samantha et Chantal. Accord parfait. Puis sur ce, ben je vous souhaite un bon épisode avec David Strajmeister, qu'on appelle aussi Doudi. J'espère que vous allez être contents de tout savoir sur Samantha. Bonjour David!
Bonjour!
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que je dis David ou Doudi?
C'est comme bon te semble.
Parce que Doudi, c'est ton nom d'artiste?
Exact.
Puis pourquoi
Doudi? Et David est... Alors, pourquoi Doudi? Tout simplement parce que dès ma naissance, après avoir officiellement mis le nom de David, ma mère m'a appelé Doudi.
Oh.
Donc, c'est le petit nom qu'on donne au David. Quand on est à Jérusalem ou quand on est en Israël, les David deviennent des Doudi en petit nom.
Wow, fait que c'est resté. C'est devenu ton nom d'artiste. En passant, je le dis pour les auditeurs, je te tutoie parce qu'on a convenu que j'allais te tutoyer. Là, c'est pour moi qui est impoli. C'est vraiment un honneur là, de pouvoir t'avoir aujourd'hui pour parler du phénomène Samantha Oops parce que ça a vraiment laissé sa trace chez les gens de ma génération. Au Québec, nous, ça a été un projet tellement marquant quand ça arrivait à VRAC TV. Mon Dieu, les réactions, les gens, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? Et tout le monde a compris le second degré et tout le monde est embarqué dans ce projet-là. On a adoré. Donc moi, de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. On doit t'en parler encore souvent.
Ben, la question que je me pose, c'est tu avais quel âge quand moi j'ai démarré? C'est la question parce que du coup, tu me parles de ta jeunesse, mais, il y a 20 ans, tu avais quel âge?
Il y a 20 ans, j'avais 12 ans.
Ah ben voilà, oui, alors, effectivement, j'ai bercé ta jeunesse.
Ben oui, ben toute mon adolescence, là, puis c'était marquant au point où on citait là, Samantha à l'école, dans les soirées avec les amis. C'est devenu, il y a des phrases que je cite encore au quotidien, là. Mais toi, j'imagine qu'on te croise sur la rue, on t'en parle encore souvent.
Ah ben, tout à fait, c'est-à-dire que ça reste ma marque de reconnaissance principale. Encore hier, en me baladant, je me suis arrêté pour faire des photos, donc oui, ça continue, le phénomène.
Wow, même sans perruque, tout le monde te reconnaît facilement.
Oui, parce que je tiens à signaler que je ne me balade pas avec ma perruque dans la rue pour qu'on me reconnaisse. Non,
est-ce que ça t'arrive de reporter le rose ou ça? Oh non, là, c'est trop associé à Samantha.
Non, parce que le rose, finalement, me va bien quand je porte le blond, mais en tant que brun, je suis moins fan du rose.
Puis, je suis juste curieuse, c'est pas le premier podcast que tu fais pour parler de Samantha?
Si, c'est le premier podcast que je fais pour parler de Samantha.
Mon Dieu, ben je suis honorée. Merci. Merci encore une fois d'avoir accepté. J'ai envie qu'on commence par le commencement. Donc, avant que le projet Samantha décolle, toi, t'étais pas du tout connue du public?
Ah ben non, puisque j'étais juste un anonyme qui sortait de son club méditerranéen. Où j'ai travaillé pendant 6 ans. Et c'est parce que j'ai travaillé au Club Med que les gens, les clients, comme on dit, enfin les membres, les GM, on disait, les gentils membres, m'ont poussé à me dire « Mais pourquoi tu tentes pas ta chance à Paris? Il faut absolument, t'as du talent, blablabla. » Et à force de me le dire pendant 6 ans, bah, je me suis dit « Il est peut-être possible qu'ils aient raison. »
Oui, c'est ça.
Donc, je vais tenter le coup. Au pire, je rentre chez ma mère. Au mieux, ben, j'y reste, quoi. Et donc, voilà, je me suis installé à Paris alors que j'habitais à Bruxelles depuis toujours. Donc, 3 ans plus tard, la naissance de Samantha a eu lieu. Et puis finalement, je crois que j'ai bien fait d'écouter les conseils de mes gentils membres.
Ben, vraiment, tu as travaillé pendant 6 ans. Au Club Med, là-bas, tu as été géo, tu as été responsable de l'animation, puis tu as été après ça le responsable de la formation des futurs animateurs. Pis c'est là que tu as rencontré Pépès, qui est Guillaume Carco, qui a finalement interprété Chantal. Tu peux-tu nous parler de cette rencontre-là?
Ah bah, exactement. J'en avais marre de faire des villages au club. Et donc, le siège de Paris m'a proposé de faire une formation des animateurs. Le rôle de l'animateur, c'est quelqu'un qui doit en fait divertir toute la journée les gens en se déguisant, en faisant des blagues, en animant les jeux, en présentant les spectacles, en faisant les spectacles, les après-spectacles. Enfin bref, c'est un peu le clown du village. Moi, mon rôle, c'était de repérer les futurs talent du Club Med pour qu'ils aient en tout cas le potentiel, parce qu'il ne suffit pas d'être drôle à table avec des amis où tu as toujours le petit blagueur de la table qui est efficace. Non, par contre, là, on te demande d'être drôle tout le temps et surtout sur scène et face à un public. Et j'avoue que sur, allez, on va dire la quinzaine de participants que j'avais, il y en avait un vraiment qui sortait du lot, et c'était Guillaume. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et à la fin de ce stage, c'est le seul à qui j'ai demandé est-ce que je peux garder ton numéro, on ne sait jamais. Voilà.
Ah, toi, tu disais déjà oh, un jour, il y a du potentiel de faire quelque chose avec lui. Super intéressant.
Il y a toujours un moment, il est toujours important de repérer des gens qui ont du talent et de se dire on ne sait jamais dans la vie.
On met ça dans notre petite poche puis on garde ça pour plus tard. Éventuellement, bon, t'as quitté le Club Med. C'était où ce Club Med-là? Juste pour être certaine.
Alors, la formation que j'ai faite où j'ai rencontré Guillaume, c'était à Val d'Isère. C'est dans une des montagnes françaises.
Wow! Puis bon, toi, t'as fini par quitter le Club Med pour retourner à Paris, où t'as pris des cours de jeu. Puis t'as fini aussi par travailler, je pense, dans une petite chaîne télé.
Alors, quand je me suis installé à Paris, il fallait que je gagne ma vie. Donc, j'ai travaillé dans un club de striptease. Et là, tu vas te demander, mais alors, est-ce que tu étais stripteaseur? Alors, j'ai postulé au départ pour être stripteaseur. C'était du pole dance. Et ils m'ont dit, tu portes moyennement bien le porte-jartel. Donc, je dis, mais sinon, je peux être aussi DJ. Et donc, ils m'ont dit, alors DJ. Et donc, en fait, j'étais DJ dans un club de striptease assez classe à Paris, qui était même devenu très tendance. Ça s'appelait le String Fellow à l'époque. Et donc, c'était the place to be à Paris. Toutes les stars venaient boire leur petit cocktail face à des jolies filles qui faisaient du pole dance. Et donc, moi, j'étais ravi de gagner ma vie comme ça aussi facilement, j'ai envie de te dire. Et surtout pour payer mon loyer à Paris. Et donc, ça me permettait la journée de postuler, faire des castings, etc.
Puis finalement, tu sais, bon, là, t'es à Paris, tu fais des castings. L'éclair de génie pour Samantha, il est parti d'où? C'est quoi qui est arrivé? Quand est-ce que t'as connecté tout ça puis tu t'es dit, hey, il y a quelque chose là avec cette idée-là?
C'est encore grâce à un gentil membre du Club Med qui m'a donné un contact du futur producteur de Samantha. Et lorsque j'ai rencontré le futur producteur de Samantha à côté de lui, il y avait une autre dame qui s'appelle Sandrine Roustan et elle cherchait à ce moment-là des participants pour des chroniqueurs pour une émission sur M6 et j'avais apporté une vieille cassette VHS, tu sais, les trucs qui tournent dans des magnétophones.
Ouais, ouais. J'ai bien connu les VHS. Et,
voilà, les VHS. Et donc à l'intérieur, j'avais mis tout ce que j'avais fait du Club Med. C'était
une démo
de n'importe une démo mais vraiment très 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 pourrie. Avec des images, des vacances, des gens, en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais rassembler tout ça. Et avec ça, elle a vu la cassette et elle m'a dit, tiens, est-ce que tu veux participer à ce casting? J'ai dit, OK. Donc, j'ai fait ce casting pour chroniqueur. Et donc, elle m'a choisi et je me suis retrouvé sur M6 dans une petite émission de rien du tout pendant l'été. Et mon rôle, c'était d'aller dans la rue et de faire des trucs avec les gens. Et ils avaient bien aimé. Et à la fin du mois. L'émission devait s'arrêter pendant le mois d'août et reprendre en septembre. Et pendant le mois d'août, ils m'ont dit, écoute, réfléchis à un concept qui pourrait revenir en septembre. Et c'est là que j'ai créé Samantha, en fait. Et en septembre, on a été tous virés. Et je me suis retrouvé encore une fois avec ma VHS, mais cette fois-ci avec la future Samantha que personne n'a vue. Et c'est à ce moment-là que j'ai recontacté, enfin, c'est le producteur, le futur producteur de Samantha qui m'a recontacté, qui m'a dit, alors, j'ai appris que t'étais sur M6, qu'est-ce que t'as fait? Je suis venu le voir, je lui ai montré ce que j'ai fait, et je lui ai dit, sinon, il y a cette cassette-là que personne n'a vue. Si tu veux, je te le montre. Il m'a dit, OK. Et il a flashé dessus, et il m'a dit, écoute, il y a peut-être un truc à faire avec ça, parce que ça me fait rire. Et j'ai dû attendre à peu près, je sais pas, 7-8 mois pour qu'il me rappelle. On a remonté la cassette, et il a été au MIP à Cannes. Et le MIP à Cannes, si tu veux, c'est un endroit, c'est une espèce de marché de la télévision où toutes les chaînes du monde se
présentent,
se proposent
des projets.
Exactement, des séries, des machins, etc. Enfin bref, c'est le grand merchandising de la télé. Et Il est arrivé avec ce projet, il a montré ça à France 2, au service KD2A à l'époque en France. Donc c'était le service jeunesse. Et ils ont flashé en 4 secondes sur le projet.
Wow! Je suis curieuse de la fameuse cassette que personne n'a vue. Qu'est-ce que tu faisais dessus? Tu étais sans mentor, mais te souviens-tu du sketch en question?
Alors, j'ai toujours voulu retrouver cette sacrée cassette parce que c'était vraiment l'origine de tout ça. Je ne sais pas où elle est, peut-être dans des vieux cartons, mais ça n'a strictement rien à voir avec la Samantha que tu connais. En fait, on avait utilisé des costumes d'une émission qui s'appelle...
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating US Wendy's.
Appelé le Morning Live qui était présenté par Michael Youn à l'époque sur M6, ouais. Et donc ils avaient que des trucs assez flashy, un peu call girl. Et donc on avait vraiment des perruques de merde. On avait vraiment des tenues de merde. On n'aurait pas osé aller au Bois de Boulogne avec. Et parce qu'on aurait été dragué avec. Mais bon, on savait pas ce que ça allait devenir. Donc, de toute façon, on avait mis les trucs, les premiers trucs qu'on avait trouvés. Et vraiment, c'était des blagues de blonde, quoi, de base. Mais c'est pas ça qui a plu, en fait. Ce qui a plu, c'est la connectivité qu'il y a eu entre Guillaume et moi, en fait. Cette espèce d'évidence qu'il y a eu à ce moment-là entre deux personnes qui se connaissaient pas vraiment, en fait, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et qui tout d'un coup se retrouvent à jouer ensemble et qui se font marrer tout le temps. Et puis il y avait l'ADN de Samantha qui commençait à naître là-dedans et qui ne demandait qu'à exploser en fait finalement et à être dans des bonnes mains. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai rencontré le producteur de Samantha. Finalement, je me suis retrouvé dans les bonnes mains pour ce projet.
Donc sur la cassette, il y avait déjà Chantal avec toi. C'était déjà comme...
Oui, complètement. Hein.
C'est ça. Parce
elle
que...
elle était rousse ou... Ou blonde aussi, je sais plus, enfin bref.
Ah ouais.
Alors, elle avait mis n'importe quelle perruque, c'était vraiment... c'est n'importe quoi.
OK, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que quand vous avez tourné cette petite démo-là, il n'y avait encore aucun, tu sais, France 2, où il n'y a personne encore qui était intéressé. Vous avez tourné ça dans l'espoir de convaincre des gens de vous donner le feu vert.
C'était à la base pour me retrouver en septembre, toujours dans cette petite émission sur M6,
ouais.
Et de leur proposer ce qu'il m'avait demandé. Mais comme on a été viré,
qu'est-ce qu'on fait avec
ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc, quoi? Que quand j'ai commencé à monter la cassette avec le type à côté de moi, le monteur français, il était en train de monter le truc et il se marrait à côté de moi. Et je le regardais se marrer et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ça le fait marrer.
Il y a quelque chose.
Donc ça ne le fait pas que. Ouais, c'est pas que moi qui me fait marrer. Surtout que les monteurs, ils passent leur vie à monter des trucs chiants et mal. Donc ils ont tout vu. Et quand tout d'un coup, ils tombent sur un truc un peu frais, original,
ouais.
Et que le mec se marre spontanément, tu te dis, oh, si ça se trouve, c'est drôle.
C'est ça.
Et donc c'était mon premier signe de me dire, il y a peut-être un truc avec ça.
Wow! Puis je suis curieuse, quand tu as imaginé ce projet-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont inspiré? Tu sais, on ne veut pas, c'est des sketchs humoristiques courts. On pourrait facilement faire le lien avec un gunfille aussi qui était populaire à l'époque, qui était des sketchs courts. Est-ce que ça a été une de tes inspirations? Y a-tu d'autres choses qui t'ont inspiré?
Du tout, hein? Non. C'est juste qu'à ce moment-là, c'était à cette époque-là, quand j'ai commencé, c'était en 2003-2004. Là, il y avait beaucoup de blagues de blondes qui étaient à la mode. Il y avait des BD qui sortaient sur les blondes. Je sais pas, c'était assez tendance à ce moment-là. C'était dans l'air du temps. Donc, du coup, j'imagine que c'est comme ça que je me suis dit, tiens, on va faire un truc sur les blondes. Et puis, en fait, il fallait que je tourne avec quelqu'un. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé le numéro de Guillaume. Et je me suis dit, si ça se trouve, il est à Paris. Donc, je l'ai appelé, j'ai dit, t'es à Paris? Il me fait, ouais. Je dis, est-ce que tu fais quelque chose cet après-midi? Il me fait, non. Je dis, est-ce que ça te dit de faire des sketchs avec moi? Il m'a fait, ok. Il est arrivé, il était pas...
Ça n'a pas été difficile de le convaincre, là.
En même temps, il foutait rien de la journée. Donc, il est venu. Il n'était pas très bien rasé. Il était un peu comme moi, comme ça, là. Et je lui dis, on va faire des trucs de blonde. Il me fait, OK. Et je lui dis, tu te souviens, quand on s'était vu à Val d'Isère dans la formation, il y avait un café-théâtre et tu avais fait des blagues sur les blondes que j'ai trouvé super drôles. Est-ce que tu t'en souviens? Il m'a dit, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je fais, OK, bah super, on va refaire ça. Et donc, on a fait, je sais pas, 6-7 sketchs comme ça. Et voilà. Et en fait, on a inventé le truc un peu comme ça.
Wow.
Et à l'époque, il y avait une musique que j'avais mis par-dessus qui s'appelait La Banana. Et ça s'appelait L'unica frutta de la vie. Et la banana, et la banana. Et j'avais mis ce truc là-dessus et ça marchait super bien. Et quand on est passé avec ce producteur, on n'a pas eu les droits de... Ça coûtait trop cher d'avoir les droits de cette musique. Et donc, on a créé notre propre jingle là-dessus.
Ben oui, Samantha! Ça, c'est le jingle que... On peut jouer une seconde du jingle et tout le monde sait c'est quoi.
Tout le monde reconnaît.
C'est fou. Exact. C'est complètement fou. Je suis curieuse parce que pour vendre un projet, tu sais, des fois, ça peut être long. Puis des fois, pour des producteurs, pour des diffuseurs, ce qui est vendeur, c'est d'avoir des vedettes. Dans votre cas, vous étiez deux personnes qu'on connaissait pas. Comment vous avez réussi à convaincre France 2, je pense, de vous donner le feu vert? Est-ce que eux, ils étaient un peu réticents vu qu'on vous connaissait pas, ou au contraire, comme tu disais, votre chimie était tellement palpable qu'ils se sont dit, hey, ça marche?
Bah, comme j'étais pas là au MIP le jour où il a montré cette cassette à Sophie Gigon, c'était la dame qui était responsable à l'époque du divertissement pour les enfants. Écoute, c'est peut-être une époque où on était moins axé sur il faut absolument qu'il y ait une star dans le programme. Plus c'était destiné à des enfants, donc ils n'avaient pas forcément la nécessité de mettre une star. C'était pas du prime time, c'est pas un projet qui était destiné à aller directement à des heures d'écoute importantes. Donc c'était vraiment pour les gamins à l'époque. Donc je pense qu'il y avait ce critère qui était moins important d'avoir des vedettes sur un programme. Et je pense que quand ils ont vu le duo, ils se sont dit, tiens, ces mecs-là sont drôles. Qu'est-ce que ça nous coûte vraiment de les foutre le matin? Au pire, ça marche pas. On aura dépensé quoi? Peut-être 20 000 balles et c'est tout. C'est-à-dire, ils prenaient pas énormément de risques là-dessus quand même. C'était du 5 minutes.
C'est ça. 4 minutes 30 voilà. Même, je pense.
Ça risquait pas de faire la faillite de France Télévisions. Donc, tout va bien.
Quand vous avez commencé à diffuser, c'était, comme tu as dit, 5 minutes. C'était une fois par semaine? Est-ce que c'est bien ça?
Alors, ça a commencé une fois par semaine, le samedi matin à 10h45. Donc, j'aimerais autant te dire que je ne l'ai jamais vu à la télé, puisqu'il était impossible pour moi de me lever aussitôt. Donc, et à ce moment-là... C'est à ce moment-là que le directeur au-dessus, directeur du divertissement France 2, a repéré ce projet dans le service jeunesse. Il a remarqué que les audiences commençaient à bien marcher sur ces 5 minutes-là. Et il s'est dit, on va essayer de le mettre, on va le rediffuser le soir même, le samedi soir, avant le JT, avant le journal télévisé. Et on va voir si ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à passer au niveau des adultes. Et comme ça fonctionnait aussi, de mieux en mieux, et que, en fait, le jour où ils ont compris qu'il y a eu un phénomène, c'est lorsqu'ils ont décidé de sortir le DVD, le premier DVD de Samantha, et qu'ils ont vu le succès public et de vente du DVD.
Ah ouais, à ce moment-là, même avec les codes d'écoute, il n'y avait pas réalisé à quel point ça devenait gros.
Non! Il y avait des taux d'audience, mais tu sais jamais quand tu sais le déterminer en millions de spectateurs. Mais
ouais, la réaction mais réelle des gens.
Ouais, c'est-à-dire l'enthousiasme des gens. C'est-à-dire que nous, on nous dit le premier jour, on nous dit voilà, vous allez faire une dédicace au Virgin Megastore. C'est un truc qui n'existe plus. C'était le plus grand disquaire de Paris, qui était sur 3 étages, qui était un endroit sublimissime. qui était énormissime aussi.
Ah, oui.
Et on nous a demandé de faire les dédicaces de ce DVD. Et non, on s'était dit, mais c'est pas possible, on va se taper la honte totale, il y aura personne. En plus, ils voulaient qu'on soit déguisé en Samantha.
Oh,
et on s'était dit, alors on va être deux travestis plaqués sur une table avec trois DVD l'un à côté des autres et on va attendre comme ça. Et les gens vont se passer à côté de nous en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces deux types qui vont là sur ce podium? Et on s'est dit, on va se ramasser une tôle totale. Et on va au Virgin, on va se changer dans les coulisses. Et à ce moment-là, le producteur arrive avec son téléphone comme ça. Et il fait, j'ai filmé un petit truc, je vais vous montrer. Tac, il monte la vidéo. Et là, c'était la vidéo de la file qu'il y avait à l'extérieur pour la dédicace. Et à ce moment-là, on s'est dit, oh oh. Et quand ils ont, quand on a ouvert le rideau, il y a eu en face de nous, le Virgin Megastore avait des énormes escaliers comme ça qui montaient.
Ouais.
Et tous les escaliers étaient noirs de monde. Et on est arrivé, l'équivalent de Justin Bieber, tu vois, avec des cris comme ça.
Une émeute, là, dans le Virgin Megastore.
Mais, et là, on s'était dit, ah, ok. Bon, sympatoche.
Ah, ben finalement.
Et on a passé. Ouais, putain. Et donc, on a dû vendre, je sais pas, 700 000 DVD du premier, donc, ouais.
700 000, c'est complètement fou. Puis, je suis curieuse, tu parlais de l'audience tout à l'heure. Donc, Samantha, quand ça a été imaginé, vous visiez les jeunes, les ados?
Non.
Non, même pas?
On visait rien du tout.
Ah, c'est ça?
On visait juste nous, en fait. On faisait juste des trucs qui nous faisaient marrer. Et on savait pas si ça pouvait plaire aux enfants. Enfin, nous, on voulait juste faire un truc qui nous fasse marrer. Et après, on balance ça au public. C'est au public de choisir qui ça va atteindre. En fait, on sait pas. Et puis finalement, on constate que ça a plu autant aux enfants qu'aux adultes.
Ben tellement, parce que nous, on écoutait ça, puis nos parents, ils venaient l'écouter avec nous.
Exactement.
On faisait tout le temps jouer ça, fait que veux, veux pas, les parents avaient pas le choix de l'écouter avec nous, puis d'aimer ça, eux autres aussi.
En plus, surtout que c'était pas... Il y avait pas le danger de mettre des enfants face à ça, parce qu'il y avait rien de subversif ou quoi
scandaleux.
Que ce soit. C'était vraiment scandaleux, c'était hyper... universel, et le but c'était absurde, c'était con, c'était juste faire marrer les gens. Et c'est marrant parce que les gens se sont appropriés les personnages et ont vu des choses que nous on n'a pas forcément repérées là-dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de ChatGPT, mais j'ai interrogé ChatGPT sur le phénomène de Samantha. Et alors que cette machine n'a jamais vu un épisode de Samantha, Il a fait une étude par rapport à tout ce qu'il a pu lire, j'imagine, sur Internet, du phénomène Samantha, et c'est extrêmement intéressant.
Wow.
C'est extrêmement intéressant ce qu'il a dit. C'était hyper précis, c'est presque un mémoire universitaire.
Wow.
Et c'est intéressant parce qu'il explique que ce personnage est universel et a eu aussi autant de succès parce que il exprime une espèce de liberté que les gens n'ont pas parce qu'il est comme il est, c'est un personnage naïf, il a donc une totale liberté de penser, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait forcément, il a quelque chose que nous on est, par notre société, par notre éducation, par notre travail, on est restreint à pas mal de choses, alors que lui il est totalement désinhibé.
C'est vrai, parce que Samantha ne se soucie pas de ce que les autres pensent, elle agit.
Et exactement. Et donc, quand tu ne réfléchis pas à ce que les autres pensent, tu es libre. Et c'est quelque chose qui a... C'est une des raisons du succès de cette série. C'est que c'est libérateur de voir Samantha. C'est quelque chose qui fait du bien. Et aussi parce que les blagues étaient drôles.
Ben oui.
Aussi. C'est aussi ça. Mais parce que nous, on a accès aussi là-dessus. C'est vraiment, on voulait que la chute soit drôle tout le temps. C'était vraiment très important. On ne voulait pas qu'il y ait juste une humeur sympathique. Mais on voulait qu'il y ait un gag à la fin, qu'il soit fort. Alors, ce n'était pas tous les jours réussi parce que c'est compliqué de faire du 100% de succès. Mais je pense que dans la moyenne, on a eu quand même un bon quota de réussite. à ce niveau-là. Ben sinon, oui. Ça, on n'en parlerait pas aujourd'hui, quoi.
Ben justement, donc, parlons-en de l'écriture des sketchs, parce qu'il y avait une équipe d'auteurs qui travaillait sur Samantha, mais toi aussi, ton nom apparaissait là, dans la saison 1. Je me rappelais, on voyait ton nom dans l'équipe d'auteurs. Toi, est-ce que tu écrivais les textes ou peut-être que tu pitchais des idées pour les sketchs? Comment ça fonctionnait?
Alors, à la base, comme tu es créateur d'une série, tu es déjà d'office dans les noms des auteurs, puisque tu es auteur de la série. Et ensuite, première saison, j'avais encore le temps de participer à des écritures, enfin à écrire des choses moi-même de temps en temps. Mais essentiellement, on donnait les thèmes aux auteurs. On leur disait, voilà, Samantha, au tout début, en tout cas, c'était, elle va faire un supermarché. Samantha, elle sera chez elle faire l'anniversaire de machin. Et ensuite, on est passé sur les métiers, enfin voilà, jusqu'à arriver au gîte. Mais au début, ouais, on donnait tout le temps des thèmes aux auteurs. Et puis... on balançait le truc et les auteurs venaient avec nous. Alors, on a dû faire tous les auteurs de Paris et tout ça pour réduire et trouver finalement les 10 meilleurs auteurs qui correspondaient à la série, qu'on a séparés en deux groupes avec la team A et la team B. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans ce team qui aujourd'hui sont des auteurs reconnus pour d'autres choses qu'ils ont fait par la suite, comme un garçon qui s'appelle Philippe Caverivière, qui aujourd'hui est une vedette sur RTL Radio et sur France 2 dans l'émission La Belle Époque, Une Belle Époque. Quelle Époque, je crois, ça s'appelle Quelle Époque, oui. Et en fait, il est chroniqueur et ça marche très bien pour lui. Il a été aussi auteur de Canteloup, Nicolas Canteloup. Et puis les autres auteurs aussi sont des gens très reconnus. Donc, on a travaillé, je pense, avec la crème de la crème des auteurs.
Wow.
Voilà. Et donc, mais ça, c'est parce qu'à un moment donné... tu testes avec des gens et puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui sortent du lot, quoi. Du coup, en fait, quand on donnait le thème, les auteurs venaient avec une soixantaine de sketchs et on se retrouvait dans un local avec moi et le producteur et on écoutait les sketchs. Les auteurs se levaient, nous racontaient, jouaient le sketch devant nous et si ça nous faisait marrer, on le prenait. Si ça ne nous faisait pas marrer, on laissait tomber. Donc, sur les 60, finalement, on en choisissait les 10 meilleurs. Et finalement, c'est les 6 meilleurs qui restaient sur l'épisode.
Voilà. Wow, OK, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui... il y a eu beaucoup de sketchs qui ont été écrits pour Samantha. Wow.
Ah oui, énormément. Ouais.
Je suis curieuse, dans les sketchs, on fait beaucoup référence à Jean-Luc Delarue. Pourquoi lui spécifiquement?
Alors, pourquoi lui spécifiquement? Parce qu'à l'époque, à l'époque de son vivant, il était le gendre idéal, en fait, en France. C'était l'animateur le plus populaire de France Télévisions, de France 2. C'était le plus beau gosse de la chaîne. Et je pense qu'il était normal que Samantha tombe amoureuse d'un mec comme lui. Enfin, je pense que toutes les femmes étaient amoureuses de lui à l'époque. Et donc voilà, au départ, c'était une blague. On a mis ça comme ça en disant, tiens, Samantha serait amoureuse de lui. Jusqu'au moment où le succès arrivant de Samantha, on leur a demandé, mais et si on faisait pas la rencontre avec Jean-Luc?
C'est ça.
Et il a accepté, et donc on en a fait un épisode entier là-dessus, quoi.
Wow, OK, j'étais curieuse parce que pour nous, au Québec, Jean-Luc Delarue, tu sais, on le voyait à l'émission, mais moi, ça a été long avant de réaliser, OK, c'est vraiment une vraie personne, là, c'est pas un personnage fictif, tu sais. Super intéressant. J'ai envie qu'on parle des sketchs. Toi, est-ce qu'il y a un sketch qui est ton sketch préféré dans les 4 saisons? Est-ce qu'il y en a? Ça serait lesquels les highlights pour toi dans ceux que vous avez écrits?
Ah, là, t'aurais dû me demander ça avant.
Ah,
je
oui?
t'aurais fait un top 10 parce qu'il y en a eu tellement.
Je te laisse penser. Moi, en tout cas, je peux te dire que les sketchs, pour avoir vu toute Samantha, on dirait que c'est les sketchs de la saison 1 qui sont restés les plus imprégnés parce que c'était mon premier contact avec la série. Je pense que les sketchs au ski vont toujours me faire rire. Je m'appelle Samantha. Ça va rester à tout jamais. C'est mon Roman Empire, là, j'y pense très souvent.
Incroyable, parce que c'est pas les miens du tout.
Mais non.
c'est pas que je les aime pas. Hein. C'est que après, moi, il y a des moments. C'est vraiment il y a des sketchs spécifiques qui quand je les revois, font toujours autant rire. Mais et c'est pas forcément première saison, c'est un mélange de plein de choses. Mais il y a quand même, d'un point de vue personnel, je trouve que le jeu de Samantha première saison et le jeu à la fin n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que tu sens qu'au début, on était deux mecs qui sortaient du Club Med, qui tentaient de jouer, jusqu'à la fin où, à un moment donné, on maîtrisait totalement le jeu et qu'on était les personnages, il suffisait juste de faire action, on était dedans, et que le jeu a évolué vachement, pour moi, qualitativement parlant. Et c'est assez flagrant quand je vois les débuts de Samantha et que je vois après, je fais oh là là là. Je me dis, mais comment les gens ont pu aimer la première saison tellement on jouait mal?
C'était
Et
tellement
c'est fou parce que
différent.
c'est ce que les jeux, et c'est fou, c'est ce que les gens aiment le plus, c'est la première saison. Et je me dis, tiens, c'est marrant, en fait. Donc on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes regards, en fait, sur les épisodes.
Je pense que c'était l'effet de surprise là, de découvrir
Sans doute.
ces deux personnages-là soudainement. Moi, les sketchs que vous avez faits en pleine rue à Paris, là, où est-ce que vous chantez devant la caméra, là,
Ah,
ça,
mais ça, c'était une improvisation.
ah, ben là,
Ça,
tu
c'était.
vois. OK, c'est tout improvisé. Toutes les paroles.
Ah oui, parce qu'on était en train de préparer un autre sketch ou je sais pas quoi. Et donc, on perd toujours un peu de temps entre les deux. Et puis, le mec, il tournait tout le temps. Et donc, j'avais la chanson de Stevie Wonder en tête. Et je suis parti sur I'm Free. Et alors, évidemment, c'est là où le duo fonctionne. C'est si je lance un truc, l'autre, il suit. Et l'autre, 99% du temps, il suivait mes blagues. Et donc là-dessus, on l'a suivi, on est parti sur un délire. Et on a gardé ça parce que ça nous faisait vraiment marrer.
Mais c'est
Et
bête, hein? Wow! Puis je suis
Mais...
curieuse. Oh non, vas-y, vas-y!
Non, mais après, il y a des épisodes que j'aime beaucoup, que j'affectionne, parce que je trouve que presque tous les sketchs me font rire. Les sketchs, quand elle est avocate au tribunal, tout ça, machin, j'ai une affection pour cela. J'ai un sketch en particulier qui me vient en tête maintenant. C'est, elle est dans un, elle est dans un café. Elle travaille de l'autre côté du comptoir, donc. Et donc, c'est Guillaume qui joue un autre personnage de l'autre côté. Et il dit, j'ai pris un café et elle est devant la caisse. Hein, elle pointe un café et au moment où elle pointe un café, la caisse sort automatiquement. Et là, elle crie gagné! Elle lui donne 3 euros. Et il ne comprend pas. Il prend les 3 euros et il ne comprend pas. Et c'est ça la magie de Samantha, c'est que c'est le regard des autres qui fait marrer finalement. Et cette blague, je l'ai vue comme ça, là, je me suis marré. C'est tellement con et c'est tellement logique en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une logique derrière tout ça. C'est pas juste une blague gratos. Il y a une logique. Elle appuie sur un bouton, t'as une caisse avec de l'argent qui sort. Bah, il a gagné quoi.
Ben oui.
Il a gagné. Donc c'est logique quelque part. C'est pas totalement idiot tout ça. Donc il y a une logique dans cette blague, enfin en tout cas dans sa tête, de donner l'argent au type qui a gagné. Donc voilà, cette blague
Oh oui, mais
me vient
c'est...
comme ça à l'esprit, mais il y en a beaucoup qui me font rire dans Saint-Martin.
Ben,
Ouais.
c'était tellement bien écrit, là. Puis j'ai envie qu'on parle des tournages de ça, spécialement dans la saison 1. Personne vous connaissait encore, puis ça arrivait que vous tourniez sur la rue. Est-ce que ça faisait réagir vos tournages?
Pas du tout.
Non!
On était tellement n'importe qui que personne savait qui on était. On était tranquille. Personne nous calculait. C'était ah vraiment. La première saison, personne savait qui on était.
Personne se retournait pour regarder, voyons, les deux gars en
Non.
rose, en
Non,
bleu.
on a jamais arrêté le tournage pour signer des autographes ou quoi que ce soit. Les gens se disaient, mais c'est quoi ces deux types là déguisés comme ça hein? Et on faisait ce qu'on voulait.
Wow.
D'ailleurs, il y a ce fameux sketch avec le bus des Chinois. À
Ah
un moment
oui.
donné, mais ça aussi c'était improvisé, c'est-à-dire que on tourne un sketch et puis on voit un bus avec des Chinois. Et je dis, allez, vas-y, tourne. Et donc on s'improvise les guides touristiques en disant bonjour. Et eux, ils comprennent pas ce qu'on. Et donc, avec Guillaume, on rince le truc. Et alors, c'était tellement drôle qu'on a décidé de garder ça, on l'a mis dans l'épisode. Mais ouais, il y a beaucoup d'improvisation dans Samantha, en fait.
Mais c'était ça que j'allais te demander. À quel point il y avait de l'impro dans les sketchs en général?
C'est souvent à la fin du sketch, quand on a fini le gag, que le type continue à tourner, que nous, derrière, on sait qu'on a encore... il va laisser tourner pendant une minute maximum. Et nous, du coup, hop, on s'improvise un truc. On voit si ça apporte quelque chose ou pas. Sinon, on a déjà le gag, on s'en fout. Le truc est déjà là. Donc, si on rajoute quelque chose qui est aussi drôle ou pas, tant mieux, on garde. Sinon, on zappe le truc, c'est pas grave. Mais on avait effectivement une liberté. De toute façon, c'était un peu ma série, donc il manquerait plus que je puisse pas faire ce que je veux. Non, mais j'avais pas de... En tout cas, il y avait pas... C'est pas comme si j'étais le projet de quelqu'un d'autre qui me disait, mais non, c'est pas ce que je t'avais demandé. Mais non, c'était notre projet, donc on faisait un peu ce qu'on voulait dedans. Et puis aussi, il y avait des moments où on voulait se marrer entre Guillaume et moi, tu vois. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment je peux le surprendre ou comment lui pouvait me surprendre sur les sketchs. Et du coup, il faisait un truc qui était inattendu ou je faisais un truc qui était totalement inattendu et c'était pour voir sa réaction. Et ça faisait du bêtisier intéressant.
Je suis curieuse, sur le plateau, c'est qui faisait décrocher qui? C'est qui avait de la misère à garder son sérieux entre toi et Guillaume?
Alors, attends, est-ce que comme tu as un langage québécois,
oui.
Des fois, j'arrive pas à traduire les termes qui sont pas les mêmes que chez moi.
Donc, qui avait de la difficulté à garder son sérieux pendant les tournages, Guillaume ou toi?
Les deux. Comment on se faisait marrer tous les deux, donc c'était vraiment... c'est pour ça que je te disais qu'il y a des moments où on cherchait le rire de l'autre. Donc on improvisait des trucs justement pour déstabiliser l'autre et pour le faire marrer. Et donc, comme on était bons clients l'un de l'autre, ça marchait. Puis, on n'était pas que seuls à un moment donné quand est arrivé le gîte.
Ouais.
Il y a eu d'autres comédiens. Et ça nous a fait du bien aussi parce que du coup, il y avait d'autres types de personnalités, d'autres types d'humour, d'autres types de choses qu'on voulait aussi faire marrer, qu'eux nous faisaient marrer, comme les chasseurs étaient très drôles aussi. Les chasseurs nous faisaient beaucoup marrer, vraiment. Et on avait beaucoup de fou rire avec eux. Et en fait, l'aventure de Samantha est un énorme fou rire, en fait. Et c'est ce que disent tous les gens qui sont venus sur le plateau de Samantha. Ils ont tous gardé un excellent souvenir du tournage parce que, en fait, ils se sont tous marrés à le faire. Ils ont tous eu des fou rires, ils ont tous eu des... Il y a eu une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'on était là pas pour se prendre la tête, on était juste là pour se marrer et faire le meilleur programme possible. Et donc, il y avait des moments d'ajustement parce que le jeu de chacun était parfois un peu différent, trop accentué pour d'autres. Enfin, ils pensaient qu'arriver sur Samantha, c'était, il fallait jouer trop grimaçant, trop
parler
très fort, machin, super gros. Alors qu'on leur disait, non, pas la peine. Sois toi-même, descends d'un niveau, continue à être toi-même. Plus tu es toi-même face à elle, plus ça sera drôle. Plus tu réagirais normalement face à un personnage comme Samantha, ça sera drôle. T'es pas obligé de faire des caisses. Parce que la caméra capte beaucoup de choses déjà, donc il suffit d'en faire peu pour être drôle.
Puis vous tourniez ça en combien de temps, un épisode de Samantha?
Ça dépend de l'efficacité qu'on pouvait avoir, mais ça prenait une journée quand même pour tourner 5 minutes. Ça nous prenait une journée. On tournait en fait un épisode par jour. Pour avoir la prise parfaite, des fois on a dû faire pas. On est arrivé à faire 40 prises, des fois. Mais c'est parce que des fois je bafouille ou alors un autre qui bafouille ou machin, ou je suis pas assez réveillé ou machin, ou on n'obtient pas ce qu'on veut donc on reprend machin. Bref, c'était pas non plus drôle tous les jours, mais
puis quand les diffusions ont commencé, les critiques en France, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était juste des critiques positives ou te souviens-tu qu'est-ce qu'on disait du projet?
On a dû avoir des critiques positives et négatives aussi. Il y a eu des gens qui se sont dit, mais ouais, mais en fait, on rabaisse les femmes, c'est antiféministe, c'est caricatural, c'est blablabla, blablabla. Genre, la seule réponse que moi, je pouvais leur donner, c'est en fait, regardez, en fait, qui regarde la série? En gros, c'est 70% de femmes qui regardent la série. Alors, si on est à ce point-là, antiféministe, alors je crois que on est les moins mal mauvais féministes de la Terre, puisque c'est les femmes qui ont choisi ce programme et qui ont regardé le plus ce programme. Donc, quelque part, c'est elles ont compris, en fait, finalement, que le but, c'est qu'en fait, ce sont juste un personnage, que c'est pas l'idée n'est pas de généraliser les femmes, c'est ce personnage-là qui est comme ça. Et puis, on peut pas aimer autant un personnage si on pense qu'il est à ce point-là antiféministe. Au contraire, je trouve même le contraire. En fait, je trouve même que c'est les femmes se sont reconnues sur plein de choses sur Samantha parce que il y a un côté un peu superficiel, c'est vrai. Il y a un côté un peu glamour, c'est vrai. Il y a un côté un peu naïf, c'est vrai. Mais toutes les femmes se retrouvent un peu dans ces trois aspects-là, un peu. La superficialité, c'est pas toujours péjoratif, hein, c'est quelque chose
Mais
de.
non.
On aime les choses un peu plus légères, un peu plus. Tout ne doit pas être sérieux, tout ne doit pas être réfléchi, tout ne doit pas être. Le shopping, ouais, les femmes aiment le shopping. J'aime le shopping en tant que mec. Est-ce que ça fait de moi un mec moins mec que les autres? M'en branle, en fait, je m'en fous. Ce que je veux dire, c'est que on a tous des futilités qu'on aime.
Mais oui.
Et donc c'est pas très grave, on est tous naïfs, on a tous été idiots. Le nombre de fois où je me dis mais qu'est-ce que je suis con quand même. Et combien de femmes se sont dit ça, combien d'hommes se sont dit ça. Donc tout va bien. Faut juste prendre ça à la légère. Et si les gens se sont identifiés sur Samantha, c'est qu'il y a une raison. Donc finalement ils étaient assez peu, il y a eu assez peu de mauvaises critiques finalement dans tout ça.
C'est ça, parce que là, vous étiez rendu des superstars, vous étiez invité sur tous les plateaux. Tu m'as envoyé une vidéo là, récapitulative du phénomène de Samantha, puis je pense qu'il y a eu au-delà de 400 articles de presse sur vous, 43 couvertures de
Ah ouais, non,
magazines.
mais
C'est
n'importe quoi.
complètement
Ah ouais,
fou.
non, mais j'ai.
Et
Ah ouais,
tu...
moi, j'ai des dossiers comme ça, d'un article que ma mère a gardé.
C'est ça. Et tu vous...
Et on
Tu
a
sais, c'est quoi
fait.
votre réaction à ce succès-là, soudain? Vous l'avez pas vu venir.
Ah non, ça, s'il y a bien une chose qu'on n'a pas vu venir, c'était le succès de cette série. Mais vraiment, ça nous a tellement dépassés. Comment tu peux imaginer que deux mecs qui vont mettre une perruque, qui vont jouer aux femmes et qui vont avoir un tel succès, c'est impossible. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu proposerais ce programme à une chaîne, aucune l'accepterait.
Ah non.
Parce que les choses ont évolué et qu'on cherche des trucs plus consensuels, qu'on est plus dans du truc, on prend moins de risques.
C'est sur les réseaux
En
sociaux
tout
que
cas,
ça
dans.
pourrait, que ça pourrait, que ça aurait pu fonctionner aujourd'hui, un concept comme ça.
Évidemment. Ouais, mais je pense qu'effectivement, si on était arrivé, si Samantha aurait été choisie et on aurait vécu l'époque des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, j'aurais sur Instagram peut-être 4 millions de followers et TikTok, j'en aurais peut-être 10 millions et qu'on serait les rois du réseau parce que Samantha correspond en plus au format réseau.
Exactement. Des TikToks de Samantha, il y en aurait eu. Il y en aurait eu plein.
C'est-à-dire qu'on était dans les 30 secondes de sketch comme un gars et une fille qui aurait pu le faire, mais nous, en plus, on était dans le format parfait du réseau social, quoi. Sauf que nous, à notre époque, les fans faisaient des sites
Ah oui, des sites de fans,
internet,
là.
des sites de fans, des blogs, des trucs comme ça, qui étaient très mignons, mais qui étaient assez finalement limités. Mais si on était à l'époque de Facebook, Instagram, machin, mais t'imagines même pas le phénomène, quoi. Non, mais imagine déjà que 20 ans plus tard, tu vas sur TikTok, tu tapes Samantha, tu as des centaines de milliers de personnes qui reprennent mes sketchs en lip-sync,
Oui.
machin. Enfin, tu te dis, imagine si j'étais au même moment avec ces gens-là et que Samantha débarquerait aujourd'hui. Ça aurait été n'importe quoi.
Dans le temps, souvent, on n'avait pas les réseaux sociaux, mais comment les gens entreprenaient, moi, en tout cas, à mon école. On avait eu un spectacle et les deux animateurs étaient Samantha et Chantal et ils avaient animé tout le spectacle en étant vos personnages. C'était à l'Halloween, je m'en souviens encore. Fait que tu vois, avant les réseaux sociaux, nous, c'est comme ça qu'on rendait hommage à Samantha. Puis d'ailleurs, ça m'amène.
Mais je crois que ouais,
Non,
mais je crois que
vas-y.
le Canada était l'un des premiers pays à avoir acheté le projet. En fait, c'est VRAC TV, je crois que c'était sur VRAC TV qui était
Exact.
diffusé. Et ils étaient les premiers à avoir saisi le phénomène et à s'être dit, je pense que ça peut marcher chez nous. Et franchement, entre la France et le Québec, c'était vraiment. Après, on a compris qu'on marchait aussi dans les autres pays francophones comme la Belgique et tout ça, mais le Québec était le premier endroit où on est parti.
C'est vrai, le phénomène est devenu plus gros rapidement au Québec qu'en France.
Ouais. C'est-à-dire que
Wow.
c'était notre premier vol à l'étranger, c'était pour aller venir voir, parce qu'on était invité par Drag TV.
Oui,
Et
puis.
donc, on a été là-bas.
Ben ça, je veux qu'on en parle justement. C'était votre passage au Vrac Party qui a eu lieu à Montréal, au parc Jean-Drapeau, le 19 août 2005. Tu m'as envoyé une vidéo de ça et c'est la folie. Total, les gens, vous
Total.
avez des bodyguards là, autour de vous pour vous protéger, puis plusieurs bodyguards. Peux-tu nous parler de cette expérience-là?
Ben, écoute, encore une fois, c'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que on arrive, on vient nous. Parce que les Canadiens savent faire les choses, hein. Ils venaient nous récupérer en limousine. Et donc, ils font pas les choses à moitié. Donc, ils nous avaient amenés en limousine et tout. Et donc. Ils nous ont fait comprendre qu'on enfin, on était accueillis comme des stars, en fait, dès le départ à
C'est
l'aéroport.
ça.
On est avec. Ouais, vraiment. On était dans des super hôtels. Et ensuite, on nous a embarqués à cette réunion-là. Et là, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris ce qui se passait. On sort de ce bus. Et là, des gens partout qui courent après nous, des bodyguards et tout. Et on nous dirige vers cette salle, dans une espèce de dôme comme
Ouais.
ça, extérieur. On arrive là, et là c'est impossible de rester à l'intérieur parce que le bruit est trop fort, et en fait les oreilles sifflent trop vite, et donc on était, je te jure, ça faisait tellement fort, je comprenais quand même pas comment les gamins restaient à l'intérieur tellement ils gueulaient fort et que en fait les oreilles criaient et ça nous faisait mal aux oreilles en fait.
C'était
On
quoi
a
le
quand même dû
but?
rester quelques.
C'était quoi le but de cette journée? Vous êtes venu voir les jeunes? Avez-vous fait un sketch? C'était juste de les
Non,
rencontrer, dire
même pas, c'était juste
bonjour?
faire coucou, c'était juste faire coucou, ça va, parce que j'imagine que c'était, il n'y avait pas que nous, hein, il y avait d'autres vedettes de la chaîne qui venaient
Ouais.
faire un petit coucou, je crois que c'est une espèce de Comic-Con, quoi, où les vedettes des séries viennent faire un coucou aux fans,
Ouais.
et donc en fait, les vrais souvenirs que j'ai, c'est les images que je t'ai montrées, parce que. C'est ce que j'ai retenu moi aussi de ce truc, c'est que voilà, on a fait un coucou, on a dû dire deux trois conneries au micro, et puis on nous a embarqués, on est reparti quoi. Après, on a fait des émissions, je sais plus avec qui, quoi, comment, pourquoi. Et après, je me souviens aussi qu'on est revenu à Montréal parce qu'on avait un spectacle qui s'appelait La Nuit Samantha.
Ah, ben c'est ça, je
Et
me demandais s'il y en avait eu une à Montréal finalement.
ouais, on était dans
Wow.
une énorme salle magnifique. Qui était complète. Je sais plus le nom de cette salle non plus. C'était une énorme grande salle. Et voilà, on avait passé un bon moment aussi là-bas. Donc non 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 non, mais d'excellents souvenirs là-bas.
Wow. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu un concours avec Vrac TV où il y a deux jeunes, puis là, j'ai retrouvé leur nom, c'était Nicolas et Maxime, on les salue. Ils avaient gagné un périple à Paris pour aller vous rencontrer et assister au tournage de Samantha. Puis, j'ai retrouvé ça sur des archives du site de Vrac TV. Il y a des photos de eux là, sur le plateau avec vous. Tu t'en souviens-tu ou c'est peut-être arrivé
Pas du
quelques
tout.
fois que des fans puissent venir? Non, non, hein? C'est.
Ah ouais, je me souviens pas du tout de ça. Mais maintenant que tu me le dis,
Ben, si Nicolas et
c'est
Maxime
bien.
nous écoutent aujourd'hui, j'aimerais bien
Ah ben
connaître votre
si.
expérience. Partagez-nous ça.
Exactement, qui m'envoie les photos surtout, parce que je m'en souviens
Ben oui.
absolument pas. S'ils ont des photos de tout ça, avec
Je peux
plaisir.
t'en envoyer. J'ai des screenshots du site web de Vrac TV dans le temps.
Avec plaisir.
Je suis
Ils peuvent me
curieuse.
contacter sur Instagram, qui vont sur mon Instagram là et qui m'envoient les photos, ce serait hyper cool de leur part.
Ah, ben là, on les invite à faire ça tout de suite. J'ai envie qu'on parle des produits promotionnels parce que votre offre a explosé. Littéralement, vous aviez plus que 40 produits différents. Moi, j'ai vu des photos de pantoufles de Samantha, de pochettes à CD, des chandails. Il y en avait beaucoup. T'avais-tu réalisé qu'il y en avait autant?
Alors, Concernant le merchandising de Samantha, c'était vraiment France Télévisions qui avait un département marketing qui s'occupait de tout ça. Ouais, moi, j'avoue que je les ai jamais vus vraiment tout ça. En tout cas, chez moi, j'ai pas de merchandising de Samantha.
T'as pas des boîtes de souvenirs.
j'ai pas vraiment beaucoup de tout ça. Je sais même pas si ça a fonctionné, le merchandising, ce genre de truc, les pantoufles que tu me dis, tous ces trucs-là. En tout cas, moi, je les ai jamais vus vraiment. Par contre, ce que je me souviens et dont j'ai participé, c'est il y a eu la BD de Samantha.
Ouais.
Si tu me laisses deux secondes, je vais la porter.
Ah, oh, ben j'aimerais ça. Oui.
Alors j'arrive, bouge pas. Donc ça, c'était la BD.
J'imagine qu'il y avait plusieurs scénettes, là. C'était quasiment un peu comme la
série. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Exactement. Et je vois qu'il y a plusieurs scénettes, différents sketchs. Donc celui-là, je le revends 5 700 €. pour ceux qui le veulent, je mets ça sur un truc. Je peux le signer et tout. Hein. Ok, donc ça, c'est fait. Comme ça paye mes vacances. Ensuite, l'autre truc sur lequel on a beaucoup participé, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a fait les recettes de Samantha. C'est les 40 recettes futées et débrouillardes. Et donc... Voilà, arrivent donc les recettes. Je pense pas que c'est ça. On a vendu énormément de ce truc, mais
ça existe encore. Est-ce trouve... encore public? Tu sais, on peut-tu encore acheter ça dans les libraires? Non.
Je suis pas sûr. Donc du coup, ça, c'est un collecteur. Je le vends
5 000 €.
Oui, on va le mettre à 6 000 quand même parce qu'il est quand même assez collecteur. Et c'est un beau produit. Celui-là, je suis assez content qu'on l'ait fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre?
Mais il n'y a pas eu un jeu sur Nintendo DS?
Oui!
Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu t'amusais à jouer à Samantha Chantal?
Alors, pareil, ça fait partie des trucs qui ont dû se vendre à 4 exemplaires. Parce que tout n'est pas une bonne idée non plus. Je crois que je n'ai jamais joué à ce jeu. Parce que je n'avais pas de Nintendo DS.
Ah oui.
Donc,
oui.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce jeu, en fait. Mais il doit exister, hein. Si on a un qui est là, qui me l'envoie, que plus je le revends, plus cher.
Oui.
Voilà.
Il est payant, ce podcast-là.
Oui, il est payant. On va faire un lien sur le shop. Donc, on avait fait ça, un jeu DS. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi en termes de merchandising?
Ben, les DVD, ouais, il y a eu des éditions spéciales. Là. Il y en avait une que c'était les...
Ah, ouais,
c'était-tu les deux premières saisons où il y avait la moumoute rose dessus? Là.
On travaillait beaucoup là-dessus parce qu'on voulait que ce soit un produit assez rare. Et on avait fait... celui-là, la moumoute est la plus connue parce qu'il y a vraiment tout moumoute rose, etc., qui est magnifique. Et on avait fait pour le premier coffret du gîte avec de l'herbe. La pochette, c'était de l'herbe.
Oh, ouais.
On travaillait beaucoup aussi sur les bonus DVD, parce qu'on voulait vraiment que l'achat soit un achat privilégié, c'est-à-dire que ce soit pas juste ce que les gens ont vu à la télé, mais qu'en plus, il y a énormément de choses différentes dedans. Et donc, par exemple, je sais qu'on avait tourné un truc totalement dingue, c'est Dîner avec Samantha. Hein? Et donc, il y avait un bonus, c'est Dîner avec Samantha. Alors, le truc est simple, tu appuies sur le truc et tu dînes avec Samantha. Donc, tout est habillé, comme ça, une table avec des chandelles, et moi, je te parle.
Tu fais un cheer.
Et alors, je cheer, tu sais comment ça va, tu t'appelles comment, et blablabla. Bla, bla. Et ça durait 40 minutes, je crois. Un truc comme ça. Mais il fallait être totalement dingue pour regarder les 40 minutes. Mais on avait tourné un truc comme ça. On a aussi tourné Samantha dort. Et on m'a filmé en train de dormir pendant une demi-heure. Et je dors comme ça.
Mais tu dormais pas pour vrai, t'as joué que tu dormais.
Oui, je jouais dormir pendant 40 minutes. Mais on appelait le bonus caché. Le bonus caché, c'était juste un plan de la caméra comme ça. Et tout d'un coup, j'étais caché entre deux armoires.
Incroyable.
Je dis, je suis caché. Et il passe, c'est tout. Mais franchement, je crois que les bonus sont aussi drôles et dingues que ce qu'il y avait dans les épisodes, parce que c'est parce qu'on les travaillait dessus, on bossait sur les bonus comme un vrai produit, quoi, une vraie émission.
Puis on parlait de produits dérivés, mais c'est pas vraiment un produit dérivé, mais vous avez considéré faire un film de Samantha qui serait sorti en 2008, un film d'une heure et demie environ. Les détails qu'on a eus, c'est que Samantha et Chantal auraient été sur une croisière. On les aurait suivis là-dedans, puis t'as même dit en entrevue, je pense que vous n'allez pas vous attendre à ce scénario-là. Pourquoi le projet a jamais vu le jour?
Alors, ça, c'est parce que... parce qu'il y a des moments dans la vie où les choses se passent moins bien. Et ça fait partie de ce projet qui y a eu des moments où les choses n'ont pas abouti. Voilà, plus difficiles, qui n'ont pas abouti. Ça fait partie de ce projet-là qui n'a pas abouti comme on voulait. Si, après ton podcast que tu vas diffuser, on a plus d'un million de vues et que sur le million de vues, tu as 500 000 personnes qui me disent « Pourquoi tu fais pas le film? Fais-le !» et que je le montre au producteur en lui disant « Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire ce sacré film ?» J'allais dire ce putain de film. Est-ce que toi, personnellement, tu voudrais voir un film avec Samantha?
Je serais à la première au cinéma.
Est-ce que tu serais avec toutes tes copines pour aller voir ce film?
C'est sûr et certain. C'est une soirée complète. On s'habille en rose. Tu sais, c'est l'événement Barbie. Là. On s'habille en rose et en bleu. Et on s'en va au cinéma voir la première du film Samantha. C'est sûr.
Si, alors, je profite de ton podcast. Parce qu'il est regardé, ton podcast. Il n'est pas juste
mais
écouté.
Oui. Ben non, il est vu.
Ah oui. Il est vu aussi. OK.
Ben oui.
Parce que vous dites écouter pour dire regarder. Alors que nous, on dit écouter pour écouter et regarder pour regarder. Bon, ça, c'est un truc qu'on comprendra jamais chez vous. Et donc... Donc, s'il y a des gens qui écoutent chez vous, avec vos yeux, et qui sont des producteurs riches et qui ont les moyens de se dire « on veut convaincre les gens », et qui se disent « tiens, et si on faisait le film de Samantha, moi j'ai déjà l'histoire, et donc venez, toquez à ma porte et dites-moi que ça vous intéresse et on pourra en parler ».
Parfait. Ben, on peut te trouver facilement sur Instagram. Hein? Moi, c'est comme ça que je t'ai contacté. Fait que...
C'est Doudi officiel, ouais.
Ben oui.
Vous pouvez tous vous abonner à mon compte. je verrai le phénomène de ton podcast. Si je vois que tout d'un coup, j'ai plus de 5 abonnés en plus, c'est que ton
il a fonctionné. Finalement, bon ben Samantha, au bout de 316 épisodes, 4 saisons diffusées entre le 11 septembre 2004 puis le 30 juin 2007, ben vous avez finalement arrêté le projet. Pourquoi la série s'est arrêtée? Je t'avais mentionné quelque part que tu voulais pas arrêter dans un creux, tu sais, quand c'est moins bon, ou tu voulais arrêter pendant que c'est encore bon, pendant que les gens aiment ça. C'était pour ça que ça a arrêté?
Oui, on a fait ça parce qu'on a... Bah, déjà, on a fait le tour de la question au gîte. C'était compliqué d'écrire encore des sketchs sur toujours le même endroit. Et puis surtout parce que on avait le désir de faire le film. Donc ça tombait au moment où on partait sur le projet du film. Ouais.
Puis est-ce que...
Et puis c'est toujours bien de quitter au meilleur moment de la série.
Absolument.
Plutôt que c'est tout le défaut parce que moi je suis un fan de séries dans ma vie. Et tu vois, quand tu as des séries qui se prolongent encore et encore, ils n'ont plus rien à te dire. Et tu te dis, tout ça, c'est pour continuer à faire de l'argent et que du coup, tu regardes les épisodes, il ne se passe rien. Prenons un exemple. J'étais fan de la série La Servante Écarlate. Je ne sais pas si tu connais cette série.
Oui, absolument.
Il y a beaucoup de saisons, là. Machin. Oh, mon Dieu, mais pourquoi je viens de voir la dernière saison et je vois cette comédienne qui ne sait plus quoi faire comme grimace. Elle les a tous fait déjà depuis 6 ans. Et donc, elle est là, elle fait... Et donc, elle prend fond, elle regarde la caméra. Et tout d'un coup, elle fait comme ça parce qu'on sent qu'elle va se venger. Mais alors qu'elle finit comme ça, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4. Donc, il ne se passe plus rien. Et donc, ils font des ralentis parce qu'il faut faire les 52 minutes sur les 6 heures. Donc, ils font énormément de ralentis où il ne se passe strictement rien.
Oh, mon Dieu.
Et donc, il ne se passe plus rien dans cette dernière saison. Et tu te dis, ils auraient pu faire ça en 3 saisons passionnantes. Et on s'aurait dit, oh, bravo, le chef-d'œuvre.
C'est ça.
Et là, il prolonge, il tire encore et encore. Et c'est tout le problème des séries qui ne savent pas s'arrêter.
C'est frustrant. Puis c'est même frustrant comme fan. de se dire « Ah, oh, j'aimais tellement cette série-là, puis là, je vais la recommander aux gens, mais je le sais que je suis obligée de leur dire « Ah, oh, mais tu sais, la quatrième puis la cinquième saison est pas tant bonne. » Mais ouais. C'est bon, là, tu sais. C'est plate. C'est terrible. Non, mais c'est un
Et toi, comme fan, tu veux quand même voir la fin, comment ils vont finir
mais
cette
oui.
série, tu vois.
On commence quelque chose, on doit finir.
Exactement. Et tu prends une série parfaite comme Breaking Bad, où tu as un début, une fin qui est parfaite, et tout est parfait, et ça
tellement.
Monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et
d'accord.
tu te dis, il faut pas aller plus loin que ça, les gars. Vous avez tout raconté, vous avez fait la boucle du personnage. Arrêtez-vous là, c'est formidable.
Voilà. Je suis tellement d'accord, c'est vrai que Breaking Bad, c'était parfait. Après Samantha, est-ce que, t'en as déjà parlé en entrevue, tu sais, est-ce que ça a été difficile pour toi de se défaire de cette image-là, tu sais, est-ce que tu trouvais qu'on t'associait trop à Samantha ou au contraire, c'était une fierté pour toi qu'on te reconnaisse pour quelque chose puis qu'on aime autant cette chose-là?
Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage pour un comédien qui débute, c'est qu'il crée tout de suite un produit, enfin, un personnage extrêmement fort. Sauf que, inconsciemment, il ne le sait pas encore, mais il vient de créer quelque chose de plus fort que lui. Il crée un personnage qui le dépasse et qui, du coup, va vampiriser sa vie. Et à un moment donné, je l'ai appelé mon monstre, en fait. Parce que il est plus fort que toi et t'as beau vouloir lui prouver que tu peux faire autre chose. Il prendra toujours l'avant, c'est-à-dire qu'il sera toujours en avant. Et quoi qu'il arrive, ça a aussi joué dans ma propre carrière personnelle, où les professionnels se sont dit, ouais, mais est-ce qu'on va le prendre ou pas? Parce qu'il est marqué aussi très fortement sur son personnage de Samantha. Donc, est-ce qu'il sera capable de faire oublier son personnage? Donc, j'ai fait d'autres choses.
Mais oui.
Mais je sais que j'ai raté aussi d'autres casting parce que les gens peut-être se sont dit ça aussi. Donc j'en ai fait un court métrage à un moment donné de ma vie qui s'appelle David avec un E à la fin où j'ai fait une espèce de psychothérapie de mon problème et ça raconte si tu veux l'histoire d'un type qui a créé un personnage très fort et qui est prisonnier de ce personnage. Et tu le vois à un moment donné parler avec son personnage. Donc, en fait, on transpose le personnage dans la réalité. Et j'en ai fait un court-métrage. Donc, c'est un truc qu'on... Je filerai peut-être un jour le lien, que les gens puissent le regarder s'ils veulent.
Mais oui.
En même temps, c'est génial parce que je préfère que les gens me reconnaissent pour un truc positif. Et heureusement que ça leur a plu parce que t'imagines si je fais un truc qui est mauvais et que les gens, toute ta vie, leur disent « Putain, c'était mauvais, hein, c'est quand même ce que vous avez fait. » Et te l'entendre toute ta vie, c'est chiant.
Ouais. Oui.
Donc, voilà, j'ai quand même la chance de créer quelque chose que peut-être peu de monde feront un jour de leur vie, c'est de créer un personnage aussi fort que Samantha, mais en même temps, qui t'emprisonne quelque part dans ta propre carrière. Tu prends un garçon comme Jean Dujardin, qui était le premier programme court avec un gars et une fille, mais attention, il a joué un homme lambda, c'est-à-dire il a joué un couple lambda. Il n'a pas créé un personnage comme Samantha, donc il a pu ensuite sortir de ça pour faire autre chose. Il a aussi d'autres choses, c'est qu'il avait un physique très cinématographique, c'est-à-dire qu'il avait un physique à la Belmondo que le cinéma français n'avait plus, donc il correspondait vraiment à quelque chose qu'on recherchait dans le cinéma aussi. Et puis il a pu aussi créer son personnage de Brice de Nice,
mais oui,
mais directement au cinéma, c'est-à-dire que au cinéma, Brice Denis, c'est un one-shot, c'est-à-dire c'est pas un truc de 3 ans dans la durée où tu rentres dans le quotidien des gens, où tu rentres dans leur esprit, tu rentres dans le truc, tu deviens leur ami, tu deviens leur truc.
Fait que c'est facile
pas la même chose que de faire un... Voilà. C'est-à-dire que tu fais un Brice Denis, un one-shot, tu pars, tu fais autre chose. Moi, j'ai 3 ans, j'ai mis dans l'esprit des gens ce personnage. Donc, et en plus, un personnage aussi fort que Samantha,
c'est
qui
sûr.
Se transmet de génération en génération, fait qu'à un moment donné, ce personnage te poursuit, quoi. Mais peut-être que si j'ai pas réussi de trouver un autre rôle aussi fort que lui pour le dépasser et faire autre chose derrière, machin. Donc, c'est aussi une histoire d'opportunité, de chance, de rencontre. Voilà, c'est pas un métier aussi facile que ça. En fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, c'est dingue. On me disait, oui, mais c'est un métier où tu galères pendant 10 ans. Je dis, bah non, en fait.
Mais non, c'est
le
passé.
Premier truc que je fais, ça cartonne, je comprends pas ce qu'ils sont en train de me dire. Et puis après, tu découvres que ce métier est long et qu'il faut durer et que voilà, et que c'est pas aussi simple que ça.
Est-ce qu'avec du recul, elle te manque parfois, Samantha?
Est-ce qu'elle me manque? Écoute, quand je tombe sur des sketchs sur YouTube ou quand je il y a une il y a un vrai plaisir à regarder encore cette série. Et je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. C'est ça qui est la force de cette série. C'est pour ça qu'elle continue à fonctionner auprès de tout le monde. C'est que c'est pas marqué par une époque. C'est juste qu'en fait, les blagues qu'on a fait, c'est des choses qu'on peut regarder tous les jours. Et, enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, ça nous fait toujours autant marrer parce que ça correspond à notre quotidien, quoi.
Mais t'as
Donc
tellement
voilà, c'est la
raison.
force. Et...
Ben, hey, écoute, merci beaucoup pour l'entretien aujourd'hui. Ça a vraiment été un honneur, puis ça a répondu à plein de questions que je m'étais toujours posées sur la série. Fait que je suis vraiment contente, puis je pense que mes auditeurs sont contents aussi d'avoir eu ta vision du projet, puis que tu aies pu nous en parler en profondeur. Donc vraiment, merci beaucoup pour l'entrevue
Merci à toi de
aujourd'hui.
ton invitation. Merci beaucoup à toi.